dire que le cheminement de tous les nouveaux convertis suit un schéma qui est plutôt prévisible. Au début, juste après son baptême, on est rempli d'un sentiment de paix et de joie, parce qu'on vient de passer des ténèbres à la lumière, selon le langage biblique, et on n'a pas de mal à voir la différence entre les deux non plus. La vie est belle, et on a une sorte de joie profonde qu'on n'a jamais ressentie auparavant. On peut appeler ça aussi une sorte de lune de miel chrétienne, où il semble facile de vivre notre foi. Et dans un sens, c'est facile, parce que nous venons d'avoir une expérience unique, et nous avons une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de voir les choses, on a pris de nouvelles décisions, tout est nouveau. Et puis un jour, la lune de miel est terminée. C'est comme dans toute la ration humaine aussi, la lune de miel finit par finir. Et puis nous découvrons que le péché est enraciné tout de même en nous, beaucoup plus profondément que nous ne l'avions cru. Et que malgré nos efforts, il y a tout de même des fautes dont nous semblons incapables de nous débarrasser. On a cette idée au début après sa conversion, qu'on va pouvoir vivre sans péché. Et les fautes, on va se débarrasser de tout ça et on sera tout à fait pur tout le temps, tout le temps. Mais on finit par se rendre compte que ceci n'est pas possible. Et puis, petit à petit, subtilement, le plus souvent, on tombe dans une sorte de routine, une routine de pratique religieuse, de choses extérieures. Notre vitalité spirituelle faiblit, la lecture de la Bible, bon, on a arrêté presque, la prière, pas très souvent. Nous n'avons pas beaucoup d'envie de faire ces choses. Et il nous arrive même peut-être d'être tenté de laisser tomber, carrément. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous avons oublié, le plus souvent, nous avons oublié que notre premier amour est une personne et non pas une pratique religieuse. Il s'est passé que nous n'avons pas approfondi notre connaissance spirituelle de Jésus-Christ. Il s'est passé que, quelque part sur notre chemin, nous avons sous-estimé la puissance du mal qui reste en nous.
Bon, je ne veux pas vous décourager trop, mais vivre selon la volonté de Dieu, lui qui est toujours saint, toujours parfait, de notre côté, est une lutte. Ce serait toujours une lutte en nous. Par la foi et le baptême, nous sommes des nouvelles créatures, comme a dit l'apôtre Paul, nous sommes des nouvelles personnes, c'est comme une naissance, l'enfant qui naît, c'est une nouvelle créature, tout pur, tout joli. Et dans le Christ, nous sommes ces nouvelles créatures, mais nous restons dans la présence de la vieille nature, du vieil homme, avec ses vieux souvenirs, ses vieilles habitudes, ses vieilles façons de penser. C'est-à-dire, j'ai peut-être changé certaines choses, mais il y a toujours des vieilles choses à côté qui m'attirent. Et c'est ça un peu la lutte dont je parle. Nous avons beau être citoyens du ciel, nous n'y sommes pas encore. Nous ne sommes pas au ciel, nous ne sommes pas parfaits. Moi, je suis le premier à le dire, je ne suis pas. Nous vivons toujours dans un monde qui exclut Dieu, qui l'exclut de sa pensée et repousse avec mépris son dessein d'amour, parce que justement, avec amour, par amour, il est venu vers nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui, mais il est venu vers nous. Et nous avons toujours tendance, cette vieille habitude, à croire les mensonges de ce monde et à vivre comme s'ils étaient vrais. Et c'est de cette réalité-là que vient le conflit intérieur que nous expérimentons tous. Nous ne sommes pas libres de cela. Bon, l'apôtre Paul définit ce conflit par parler de l'opposition de la chair et de l'esprit. Et quand l'apôtre Paul emploie le mot « chair » dans ses textes, il ne veut pas parler ou désigner notre corps matériel. C'est pas ça ce qu'il veut dire. Mais parce que ce corps a été créé par Dieu, a été créé et déclaré bon au début. Bon, la chair, dans l'image de Paul, s'agit plutôt de l'homme dans sa volonté de vivre indépendamment de Dieu et en dehors de la logique du dessein de Dieu que nous sommes en train de voir. Galates 5, verset 17, car la chair en ses désirs s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme. Aussi, ne faites-vous pas ce que vous voulez. Et il y a l'apôtre Paul qui l'a dit, mais moi je le dis aussi, il y a des choses que je veux faire, je ne fais pas, et des choses que je ne veux pas faire, que je fasse. Et donc, je fais. Galates 6, verset 8. Celui qui sème pour sa propre chair récoltera ce que produit la chair, la corruption. Et la corruption, voilà à quoi on peut s'attendre de la chair, voilà à quoi on peut s'attendre de l'homme dont l'intelligence n'est pas façonnée par le dessein de Dieu qui a été révélé par l'Esprit. Et c'est que la chair, notre pensée à nous, ne s'améliore pas avec le temps. Au contraire, elle se corrompt de plus en plus au fur et à mesure que sa pensée est programmée par le monde, c'est-à-dire par la société qui nous entoure, parce que nous sommes tellement influencés par ce qui nous entoure. La société qui exclut Dieu de sa pensée et se barricade contre son amour. Malheureusement, la société humaine qui nous entoure nourrit sa propre pensée et ne se conforme pas au dessein ou à la pensée de Dieu.
Nous sommes confrontés donc une lutte entre la chair et l'esprit. Et on se demande combien de temps ça va durer, combien de temps, jusqu'à quand durera ce combat, cette lutte. Bon, là, il y a une mauvaise nouvelle et puis il y a une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous en avez jusqu'à la fin de vos jours. Tout chrétien luttera contre cette chair, selon la définition que Carla nous a donnée, jusqu'au jour de sa mort. Il ne s'en libérera jamais. La bonne nouvelle, c'est que entre-temps et par la même occasion, par la lutte que l'on livre contre ces choses dont nous voulons nous débarrasser, nous grandissons dans la foi, dans la grâce de Dieu, dans la connaissance de Lui. Nous nous faisons des efforts pour devenir de plus en plus comme Lui-même a été. Alors, comment est-ce qu'on peut grandir dans cette grâce en luttant contre le mal? Quelles sont les méthodes, si on peut parler de méthodes, pour grandir dans la grâce de Dieu, tout en luttant contre le mal qui est en nous? Bon, d'abord, il y a deux méthodes qui ne marchent pas, qui ont été expérimentées, je suppose, par chacun d'ici présent. Premièrement, c'est l'auto-psychanalyse permanente. La personne qui se demande à chaque instant pourquoi elle a fait ceci, pourquoi elle s'est trouvée à cet endroit, là, alors que celui-là disait ceci et celui-là disait cela. Bon, on est en train toujours de s'auto-analyser et ceci ne marche pas. Quand on cherche toute la réponse à toutes les questions en soi-même, c'est comme quand on épluche un oignon. Quand est-ce qu'on trouve le cœur de l'oignon? On ne le trouve pas. On ne le trouve pas, on enlève couche après couche après couche, et on finit avec rien. On ne peut pas trouver la réponse à nos plus grandes questions à l'intérieur de nous-mêmes. Ces réponses viennent de Dieu, et notamment par la parole qu'il nous a donnée. Ensuite, une autre méthode qui ne marche pas, c'est on ne peut pas arriver à la maturité spirituelle en suivant un système de règles. S'imposer ou se laisser imposer un tas de disciplines pieuses dans l'espoir de mater la chair et de devenir spirituel. Ça ne marche pas comme cela, ça ne marchera jamais comme cela. C'était l'erreur des Galates à qui Paul a dit, Galates 3, 3, vous avez ça sur vos feuilles, êtes-vous stupide à ce point? Parfois Paul était un peu cru dans ses propos. Vous qui d'abord avez commencé par l'esprit, est-ce la chair maintenant qui vous mène à la perfection? Mais il faut dire en passant que la discipline chrétienne est importante. La discipline de la prière, de l'étude de la Bible, des réunions avec d'autres chrétiens, l'exercice de la sainteté, du refus de tout ce qui n'est pas digne de Dieu, ce sont des disciplines chrétiennes qu'il faut maintenir. Mais ce n'est pas dans ces choses qu'on trouvera le moyen d'être délivré du péché. Ce n'est pas la source de notre salut. Quel est donc le bon moyen de grandir dans la grâce de Dieu? Bien, Paul le donne dans Galates 5, 16. Écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Mais qu'est-ce que signifie marcher selon l'esprit?
Voilà la question. Je vous laisse répondre. Non, les chrétiens sont engagés, comme j'ai dit, dans une lutte spirituelle et nous allons aborder la question de ce conflit en nous autrement maintenant. Éphésiens 6, verset 12. car nous n'aurons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Bon, pour la plupart des gens, quand on parle de l'expression lutte spirituelle, ça évoque une scène de possession démoniaque comme on voit dans les films d'horreur. Et il est vrai quand même que Jésus a chassé des démons, les mauvais esprits, mais cela n'est qu'un aspect mineur dans la guerre dont on parle ici. Le vrai enjeu de la lutte, c'est la vérité contre l'erreur, ou le dessein de Dieu contre la pensée humaine. Le champ de bataille, donc, c'est l'esprit des chrétiens, c'est en nous que se passe cette lutte dont on parle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, donc, qu'est-ce que tu as dit? Marcher selon l'esprit, n'est-ce pas? Éphésiens 4, verset 17-24. Voici donc ce que je dis et atteste dans le Seigneur. Ne vivez plus comme vivent les païens, que leur intelligence conduit au néant. Leur pensée est la proie des ténèbres et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'entraîne chez eux l'endurcissement de leur cœur. Dans leur inconscience, ils se sont livrés à la débauche au point de s'adonner à une impureté effrénée. Pour vous, ce n'est pas ainsi que vous aurez appris le Christ. Si du moins, c'est bien de lui que vous avez entendu parler. Si c'est lui qui vous a été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. Il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses. Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence. Voilà cette idée de marcher selon l'esprit. Il y a une transformation à faire en nous. Verset 24. Et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. L'esprit agit plus directement sur notre intelligence que sur nos sentiments. Il faut se rappeler cela parce que nous parlons ici de vérité, pas de sentiments, pas d'émotions, car nos émotions sont incapables de distinguer le réel de l'imaginaire, de la vérité du mensonge. Nos émotions ne font que réagir au message envoyé par notre intelligence. Elles ne font que suivre nos pensées. Et si vous ne me croyez pas, il suffit d'aller voir un bon film d'horreur au cinéma. Bon, vous pouvez aller dans le cinéma, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous dire, ce n'est qu'un film. Ce n'est qu'un film. Mais une fois que votre logique entre dans le film même, ou votre pensée mentale entre dans le film, vous aurez peur quand même. Donc même nos émotions sont influencées par notre intelligence. Or, le chrétien peut livrer son intelligence à la logique et la pensée du monde. Et voilà notre problème. Nous pouvons nous livrer à cette façon de voir des choses. Dans ce cas, ses sentiments et ses désirs répondront à ce qu'ils prennent pour la réalité. Alors, les actions des chrétiens suivant ces désirs mensongers ressembleront aux œuvres de la chair. Ou bien, le chrétien peut livrer son intelligence à la logique de l'esprit, à ce que Dieu, l'esprit, a révélé sur Dieu et sur son dessein. Donc, ce n'est pas quelque chose de nébuleuse, c'est quelque chose de réel. On peut trouver des réalités, des vérités qu'ont révélé l'Esprit dans les textes de la Bible sur Dieu. Alors, ses désirs, la personne qui se livre à cette logique-là, se porteront vers ce qui est vrai. Et ses actions ressembleront aux fruits de l'Esprit. Et quels sont les fruits de l'Esprit? L'amour, la joie, la paix, etc. Il y a toute une liste que l'apôtre Paul nous donne. À quoi ressemble donc une vie vécue en dehors de la logique du dessein de Dieu, par opposition à la vie à laquelle nous appelle ce dessein? Nous aurons quelques indices concrets en nous rapportant à quelques listes dans le Nouveau Testament qui font une opposition entre ce qu'on appelle les vices et les vertus, qui parsèment tout le Nouveau Testament, parce qu'il y a pas mal de listes qui sont données. Et si vous faites l'addition, vous allez trouver qu'il y a 96 vices et que 30 vertus qui sont mentionnées dans ces textes. Bon, voilà.
Sous la rubrique « vice qui éloigne du royaume », on pourrait aussi dire « péché, faute » qui nous éloigne de ce dessein de Dieu, nous voyons une liste qui se trouve dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, que l'apôtre Paul appelle « œuvres de la chair ». On les connaît, les œuvres de la chair, libertinage, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envie, beuverie, ripaille et autres choses semblables. Leurs auteurs, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu. On peut répartir ces 15 péchés, parce qu'il y a 15 dans cette liste pas très commode, 15 péchés en 4 groupes. Premièrement, faute de la vie sexuelle. Deuxièmement, faute de la vie religieuse. Ensuite, faute de la vie sociale. Et faute de la vie physique. Nous allons regarder chacune de ces catégories individuellement.
Bon, nous sommes en train de regarder ce qu'on appelle la logique de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous, okay? Et il va donner, nous en parler d'abord de choses qu'il faut éviter. Et la première catégorie des 4, c'est les désordres sexuels. Et il y en a pas mal qui sont notés dans, pas seulement ce texte ici en Galates, mais dans d'autres passages. Mais le premier vice qui est mentionné en chapitre 5, 19, c'est le libertinage. Et ce mot libertinage vient d'un mot grec, porneia, qui doit nous dire déjà quelque chose, n'est-ce pas, la pornographie, etc. Et libertinage englobe dans le Nouveau Testament tous les rapports sexuels en dehors du mariage. La prostitution, l'adultère, l'homosexualité, l'inceste, rapport entre célibataires qu'on appelait autrefois la fornication et la bestialité, c'est-à-dire le rapport avec les animaux. Le deuxième mot, l'impureté va au-delà des actes extérieurs et désigne un esprit sale et grossier qui invoque le dégoût, on peut dire un esprit cochon. Et puis, par débauche, Paul entend des excès sexuels qui s'affichent ouvertement jusqu'au point de choquer la décence publique. Cela me fait penser à ce que nous appelons une société débauchée, ou une société qui n'est plus choquée, par exemple, par les affiches assez explicites de Minital Rose, par exemple, ou d'autres publicités qu'on voit. Mais la logique du dessein de Dieu comporte une attitude envers la sexualité qui n'est pas celle du paganisme ambiant. Bon, je vous dis ceci tout de suite, que ce n'est pas le diable qui a créé le sexe, c'est Dieu. Et le sexe, comme Dieu l'a créé, est très bon, c'est magnifique, c'est très beau. C'est quelque chose de très intime, de très rassurant et très réconfortant et satisfaisant. Mais le diable l'a exploité, et ou il l'a fait exploiter, si vous voulez. Dieu l'a créé, mais il l'a réservé et l'a consacré uniquement à l'intimité du mariage. 1 Thessaloniciens 4, versets 2 à 8. Vous connaissez en effet les instructions que nous avons données de la part du Seigneur Jésus. Voici ce que Dieu veut. C'est que vous soyez saints et que vous gardiez de l'immoralité. C'est encore ce mot porneia qui se trouve là. Que chacun de vous sache tenir son corps d'une façon sainte et honorable, et non en se laissant dominer par de mauvais désirs, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans cette affaire, aucun homme ne doit causer du tort à son frère ou porter atteinte à ses droits. Je vais faire une petite parenthèse ici qui n'est pas prévue, mais l'apôtre Paul, Romains chapitre 13, je crois, non, oui, 13, je crois, les versets 8 à 10 par là, a parlé de l'amour et comment l'amour ne fait pas de mal à personne. Et dit que l'amour ne commet pas d'adultère, le mort ne tue pas, le mort ne convoite pas, des choses comme ça. Donc, quand on parle de « on fait cela par amour », c'est un mensonge qui vient du monde. Parce que l'amour ne fait pas de mal à quelqu'un, ok? Bon, le Seigneur Pierre, bon, on va recommencer au verset 6. « Dans cette affaire, aucun homme ne doit causer du tort à son frère ou porter atteinte à ses droits. » Nous vous l'avons déjà dit et vous en avons sérieusement averti, le Seigneur punira ceux qui commettent de telles fautes. Dieu ne vous, nous a pas appelés à vivre dans l'immoralité, mais dans la sainteté. C'est pourquoi celui qui rejette cet enseignement ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Saint-Esprit.
Les fautes religieuses, perversion religieuse, idolâtrie, magie. Si l'homme moderne se flatte d'avoir dépassé le stade primitif de l'idolâtrie, sous prétexte qu'il ne fabrique plus de totems ou plus de statues, il y a là une illusion. Parce que les dieux païens de l'Antiquité n'étaient rien d'autre que les incarnations des réalités humaines et naturelles qui ont encore aujourd'hui leur foule d'adorateurs. On n'érige plus de temple aujourd'hui en l'honneur de Mars, du dieu romain Mars. Mais des millions d'hommes se prosternent aujourd'hui devant ce que Mars représentait. Qu'est-ce qu'il représentait ? La guerre et la force militaire. De même, Bacchus n'était que l'incarnation de l'ivrognerie. Et Vénus, de la sensualité illicite. Et Athéna, de la philosophie. Et Mercure, de la vitesse débridée, etc. etc. L'idolâtrie, quand on est idolâtre devant Dieu, c'est quand on a mis toute sa confiance en quelqu'un d'autre que lui, ou en quelque chose d'autre que lui. Quand on parle de la magie dans ce contexte, il ne s'agit pas de la prestidigitation à la David de Copperfield, que j'aime bien regarder d'ailleurs, vous aussi sans doute. Ça c'est du tour de main, ça n'est pas de ça que nous parlons ici, mais du trafic avec les forces obscures qui existent selon la Bible. La sorcellerie et le spiritisme, qu'on peut appeler aussi magie noire, aussi divination et astrologie.
Une troisième catégorie dans cette liste que Paul donne aux Galates, c'est ce que j'appelle les péchés contre la paix avec le prochain. Et là, les comportements qui entraînent situations conflictuelles et désignants tiennent avec 8 termes sur 15. Donc sur les 15 termes qui se trouvent dans cette liste, 8 ont un rapport avec les problèmes entre personnes, comment ça peut créer le désordre ou même jusqu'à aller à la mort ou le meurtre. Mais il s'agit ici dans ces 8 termes de l'hostilité sociale, raciale ou personnelle envers le prochain, d'agression verbale, d'explosion de colère, de jalousie, toutes ces choses-là qui peut-être on n'est pas en train de commettre ce qu'on appelle le péché d'immoralité, mais combien d'entre nous n'est pas parfois emporté par la colère ou les jalousies et des choses comme ça. Donc, certains de ces thèmes semblent s'appliquer plus particulièrement à l'Église. Ce qui est intéressant parce que, je ne sais pas si c'est intéressant ou non, mais en Galates, Paul s'adresse à des chrétiens. Il n'est pas en train de parler des gens qui ne se disent pas chrétiens du tout ou croyants. Il parle aux croyants. Et il vise ceux qui, par ambition égoïste, esprit sectaire ou fanatisme religieux, en déchirent l'unité de l'Église. Donc, quand il parle de ces péchés, ce sont des personnes-là qu'il a en tête. Il y a des péchés païens, on peut les appeler, par lesquels nous pouvons nous exclure nous-mêmes du royaume de Dieu, mais aussi il y a des péchés chrétiens, s'il y a un péché chrétien. Tout cela montre quel prix Dieu attache à la paix entre les hommes. Je ne sais pas s'il y a un thème qui revient plus souvent dans la Bible que le thème de la réconciliation, que ce soit la réconciliation des hommes entre les hommes et Dieu, ou entre les hommes, entre les humains. Que ferait-il dans ce royaume de fils dont le cœur est rempli de ressentiment et d'agressivité? Qu'est-ce que Dieu va faire avec une personne qui se dit son fils? Bon, nous savons ce qu'il fera pour celui qui a un esprit de douceur et de paix. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui font œuvre de paix. Ils seront appelés fils de Dieu.
Faute de la vie physique ou faute contre la tempérance, le passage parle de beuverie et de ripaille. Ce sont des exemples d'excès dans la jouissance de plaisir physique. Des excès qui non seulement offense Dieu, mais déshonore ceux qui y participent et les rend esclaves aussi. Les deux mots grecs utilisés pour beuverie et ripaille ici désignent respectivement ivresse et banquet qui dégringole en débauche. Il n'y a rien d'exhaustif dans cette liste. Vous avez vu qu'il a dit « et d'autres choses semblables », parce que le mal peut prendre bien des formes différentes. Il arrive, et ceci a été souligné parce que Alain a dit, il arrive que les chrétiens et les chrétiennes se laissent entraîner dans ces vices. Ces vices ont été donnés à des églises. C'est des choses qui ont été écrites à des chrétiens. Donc les chrétiens avaient ces problèmes au premier siècle, ils les ont aujourd'hui au XXe siècle. Et quand un chrétien ou une chrétienne se laisse entraîner dans ses vices, il s'agit de péché, et quand il s'agit de péché, il faut se repentir. Il faut changer, arrêter cela, et se repentir, et repartir de nouveau. Car le péché, sans parler du mal qu'il fait au pécheur lui-même, fait du mal aussi à d'autres personnes autour, et endurcit le cœur contre l'amour de Dieu, et finit par miner son allégeance à Dieu. Passage de 1 Corinthiens 6, 9 à 11. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ?» Ceci est écrit à des chrétiens. « Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés. Mais ils sont toujours obligés de mener une lutte contre cette vie ancienne qu'ils ont quittée, et cela à cause du fait qu'ils ont choisi de vivre une autre vie. Et il y aura donc toujours cette lutte entre une vie qu'ils ont quittée, mais qui essaie de rester avec eux, et la nouvelle vie qu'ils essaient de vivre. Ils ont choisi ceci, cette lutte, au nom de Jésus-Christ, et à cause de son esprit. Cela veut dire qu'ils ne peuvent avoir désormais aucun commerce honteux avec ces vices. Ces choses nous éloignent de Dieu, ces choses nous entraînent dans la direction opposée à notre destination, dans les saints de Dieu.
Bon, c'est une lutte. C'est toujours une lutte. Je compare un alcoolique qui arrête de boire, mais ils disent, au moins les médecins, une fois alcoolique, on est toujours alcoolique. Donc c'est une lutte. Il suffit d'un petit verre pour qu'il retombe dans son ivresse ou son alcoolisme, ou la pratique plutôt. Et donc, il faut lutter contre cela, et nous sommes tous attirés parfois par les choses de ce que nous étions. Pour certains, c'est plus facile que d'autres de lutter. Maintenant, ça c'est le côté négatif, mais on va parler maintenant du côté positif, quand même il y en a de cela. Il y a ce qu'on appelle les vertus qui nous rapprochent du royaume de Dieu. Et encore, ce n'est pas quelque chose qui vient comme cela. Ce sont des choses à développer. L'athlète qui va faire les 100 mètres ou le marathon, il ne commence pas le lundi et le mardi pour le premier marathon de sa vie. C'est quelque chose qu'il fait en s'entraînant. Bon, la même chose pour les ce qu'on peut appeler les vertus chrétiennes, ce sont des choses à apprendre. Certains l'ont plus facilement que d'autres. Il y en a qui ont presque le don de certaines choses, d'autres n'ont pas. Donc, quand même, il y a un effort. Bon, le dessein rédempteur de Dieu n'atteint pas sa pleine efficacité que lorsque les croyants marchent résolument vers le but proposé. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un effort à faire. Quel est le but proposé? C'est la participation à la gloire divine. Recevoir cet héritage qu'il ne possède pour le moment qu'en tant que promesse, c'est cela que le chrétien prend comme point décisif. C'est ça qui nous fait choisir pour Dieu. Il y a quelque chose qui nous attend, on veut cette chose, donc on décide, voilà ce que je vais chercher. Mais une fois engagé dans la course, l'important pour un coureur de fond, par exemple, c'est de terminer. J'avais demandé à Daniel, par exemple, 2-3 fois, est-ce qu'il a gagné? Il a dit oui. J'ai dit, quelle place as-tu eu? Daniel fait des marathons. Il a dit, j'ai fini. Et c'est ça le sens de la vie chrétienne. Il y a à finir, il faut terminer bien sûr, si on peut. Et chacun, il faut tenir jusqu'au bout. Donc, le Nouveau Testament dresse un certain nombre de catalogues de vertus, non pas seulement pour nous faire la morale, mais pas tellement pour lui faire la morale, mais pour faire tendre notre vie vers Dieu et ses promesses, pour nous inciter, si vous voulez, pour nous encourager à le faire. J'aimerais qu'on considère une liste que l'apôtre Pierre nous donne, c'est en 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 7, on peut les appeler une sorte de chaîne, les choses qui s'enchaînent l'une à l'autre. Verset 3. La divine puissance du Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à sa bonté. C'est ainsi qu'il nous a accordé de précieuses et de grandes et très grandes promesses, afin qu'en recevant ce qu'il a promis, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts, voilà l'idée d'effort, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à votre bonne conduite la connaissance. Efforcez-vous d'ajouter à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience et à la patience l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle l'amour. Il est vrai que cette chaîne de foi n'est pas construite d'une manière ou d'une rigueur logique, l'un maillon succédant nécessairement à l'autre. Tous sont nécessaires. Elle peut plutôt nous indiquer les qualités qui permettront de coopérer avec la grâce de Dieu pour arriver au but. Donc, comme vous avez peut-être compté, il y en a 7 qualités ou vertus dans cette liste.
La première, c'est la bonne conduite. L'apôtre Pierre entend par bonne conduite tout simplement le courage de notre foi, l'énergie morale, la force de caractère qui nous fait agir d'après les exigences de notre foi. Il y a bien des chrétiens qui ressentent les exigences de leur foi, mais qui n'agissent pas en conséquence. Bien, la bonne conduite, c'est cette force en nous qui nous fait agir selon ce que nous savons être vrai. Jacques 1, 22, « N'allez pas vous tromper vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Une chose est d'entendre la parole de Dieu, une autre chose est de la mettre en pratique. Jésus l'a dit aussi dans son sermon sur la montagne. Ensuite, il y a la connaissance. La connaissance, quand on parle de connaissance chrétienne, il ne s'agit pas de devenir une encyclopédie biblique ambulante, avec toutes les réponses à toutes les questions bibliques qu'on puisse se poser, y compris le nom des 12 fils de Jacob et tous les petits-fils, etc., des choses comme ça. La connaissance de Dieu est bien plus profonde que cela. Il s'agit d'une vue exacte et d'une intelligence sans cesse plus profonde du dessein de Dieu réalisé par le Christ. Colossiens 2, 2 et 3. Je veux qu'ainsi leur cœur soit encouragé et qu'étroitement unis dans l'amour, ils accèdent en toute sa richesse à la plénitude de l'intelligence, à la connaissance du mystère de Dieu. Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Cette connaissance divine ne vient pas de manière miraculeuse, ou par osmose, ou par une illumination mystique, ou par une petite voix qui nous parle à l'intérieur de la tête. Cette connaissance nous vient comme nous vient toute autre intelligence. Ça vient par l'instruction, par les études et par la méditation. Il n'y a pas d'autre moyen. Colossiens 3,16. Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse.
La troisième vertu, c'est la maîtrise de soi. De la connaissance, je vais enchaîner quand même un peu, parce que de la connaissance du dessein de Dieu résulte la conduite correspondante, qui est le renoncement aux mythes mensongers du monde et aux addictions qu'ils engendrent. De la connaissance du dessein de ce que Dieu veut pour nous résulte une conduite qui rend le croyant libre pour suivre son chemin jusqu'au bout. Je crois que c'est Jésus qui l'a dit, quelque chose comme si vous me connaissez, si vous avez la vérité vous rendra libre. Il y a l'idée qu'avec la connaissance dont il a parlé là, qu'il y a une vraie liberté qui arrive, parce qu'on est fait, on est vraiment esclave parfois de choses qui, manque de connaissance, si on peut le dire. Bon, 1 Corinthiens 6, verset 12. Certains d'entre vous disent, tout m'est permis. Oui, cependant, tout ne vous est pas bon. Je pourrais dire, tout m'est permis, mais je ne vais me laisser réduire en esclavage par quoi que ce soit. Nous sommes en train ici de parler de cette qualité de maîtrise de soi. Il ne s'agit pas, dans le contexte de l'Épître aux Corinthiens, que dans ce passage-là, simplement de choses qui sont moralement condamnables, telles l'ivronnerie ou la drogue, la cupidité. Par exemple, les athlètes s'abstiennent de beaucoup de bonnes choses, des choses légitimes. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent arriver au but, ils veulent être les vainqueurs, ils veulent avoir la couronne de vainqueur, ils veulent avoir la médaille. Donc ils s'abstiennent, ou on peut dire, ils se maîtrisent dans certaines choses. De même, l'apôtre Paul ne laissera jamais ses désirs, même légitimes, devenir son maître et le détourner de son but. Et ainsi, il se maîtrise. Mais quatrièmement, il y a la patience ou la constance. C'est peut-être mieux traduit la constance. Le mot grec désigne non pas la patience envers les gens, mais la constance, c'est-à-dire, je dirais, la persévérance qui n'abandonne pas face aux difficultés ou aux persécutions qui peuvent nous arriver. C'est la qualité de ne pas relâcher au cours du temps. L'épreuve de la durée, j'ai parlé tout à l'heure du marathon, est peut-être la plus dure de toutes les épreuves. Parce qu'il faut tenir jusqu'au bout. C'est long, 42 km. Dans Hébreux 10, 36. C'est d'endurance, en effet, que vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir la réalisation de la promesse. La vie chrétienne n'est pas tant une course de vitesse, 50 mètres ou 100 mètres, mais plutôt un marathon. Hébreux 12, verset 2 à 3. Comment est-ce qu'on va tenir jusqu'au bout, donc ? Rejetons tout fardeau et le péché qui sait si bien nous entourer, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les regards fixés sur celui qui est l'initiateur de la foi et qui l'amène à son accomplissement. Jésus, lui qui, renonçant à la joie qui lui revenait, endura la croix au mépris de la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Cinquièmement, il y a l'attachement à Dieu, où la plupart des versions françaises mettent piété. Le mot piété que vous rencontrez souvent dans vos Bibles est un mot qui est bien méconnu parce que mal utilisé dans le passé. Le mot piété, le substantif et puis l'adjectif pieux ou pieuse sont devenus parfois même des injures. On parle de gens qui ont des intentions pieuses et on ne veut pas dire du bien en utilisant ces mots, enfin dans le contexte de notre société. Mais le mot de piété est un mot parfaitement bien dans le contexte pour lequel il a été donné. Cela veut dire l'attitude de celui qui s'efforce d'accomplir tous ses devoirs envers Dieu et de lui rendre tous les honneurs qui lui sont dus. La piété est faite non de bigoterie, comme cela les gens pensent parfois, mais de respect et de crainte de Dieu, de gratitude, de dépendance. Et elle s'exprime concrètement par l'adoration de Dieu, par la prière, par l'action de grâce ou la reconnaissance, et par un consentement humble à sa providence souveraine. Elle fait partie de la vie du chrétien, elle doit faire partie de la vie du chrétien, mais elle est loin d'en constituer le fondement. La seule chose qui peut être appelée piété et qui est digne de ce nom dans la vie chrétienne, c'est une foi profonde en Christ ressuscité d'entre les morts et glorifié à la droite de Dieu. Hébreux 12, 28, 29, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. La force qui motive la vraie piété est l'amour reconnaissant et respectueux pour Dieu. Si nous essayons d'y substituer toute autre chose, que ce soit le souci des apparences, la pression sociale, l'obligation, la culpabilité, l'esprit sectaire, l'attachement aux traditions culturelles, nous allons tomber dans la tradition routinière de la religion et notre pratique ne vaudra guère mieux que du paganisme.
Une sixième vertu, c'est l'affection fraternelle, qui vient du grec Philadelphie, la ville d'amour fraternel, qui vient d'un autre mot grec, philéo. Et on a en effet quatre mots grecs pour amour. C'est un langage très précis, mais philéo, c'est l'amour ou l'affection fraternelle, qui est le souci et la tendresse que les membres d'une famille ont les uns pour les autres. Et là, les chrétiens sont appelés à avoir cette sorte d'amour-là. En tant que croyants baptisés, on revient à notre engagement au début, nous appartenons tous à la maison de Dieu, ou à la famille de Dieu. Nous ne sommes pas les uns pour les autres des étrangers, nous sommes maintenant des frères et des sœurs en Christ. C'est pourquoi dans la Bible, il parle souvent des frères et des sœurs. Mais en 1 Pierre 1, verset 22, d'abord, « Vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité pour aimer sincèrement vos frères en la foi. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Et cela veut dire que, puisque c'est un commandement, c'est quelque chose qui peut être obéi ou rejeté. C'est quelque chose qu'on peut choisir de faire ou non. Donc l'amour est plus que l'émotion, c'est un choix. Je décide que je vais aimer cette personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je veux le bien de cette personne, le bien-être de cette personne. Je ferai tout mon mieux pour cette personne-là. C'est ça l'idée de l'amour biblique ici, dans ce cas, filio. Or, cette affection fraternelle nous permet de résoudre, par exemple, des différences d'opinion et de goût. Comme dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 13, il dit que l'amour supporte tout, espère tout, etc. Il nous empêche aussi de faire obstacle à notre communion et accueil mutuel. Mais la famille de Dieu n'appartient pas à nous, elle appartient au Seigneur. Il faut se rappeler de cela. C'est lui, nous sommes membres de sa famille. Si nous sommes devenus enfants adoptifs selon le dessein de Dieu, c'est par pure grâce. Ce n'est pas que nous l'avons mérité, ce n'est pas que nous l'avons le droit, que nous avons été admis de droit. Et donc, nous faisons mutuellement bon accueil, comme le Christ nous a accueillis. De notre côté, la maison de Dieu ou la famille de Dieu n'est pas simplement un foyer d'accueil, mais plutôt une communauté en route vers une destination précise. Et je dis bien une communauté, ce n'est pas individuellement qu'on va arriver, c'est ensemble que nous allons arriver. Nous sommes appelés à être ensemble. L'apôtre Paul a recommandé à un jeune évangéliste qui s'appelait Timothée, c'est 2 Timothée 2, 22, « Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, en union avec ceux qui d'un cœur pur invoquent le Seigneur. » Donc il y a encore cet effort, la recherche. Il y a aussi en union avec ceux qui, d'un cœur pur, invoquent le Seigneur, ou ceux avec qui nous sommes en communion, on peut le dire. Donc Paul dit à Timothée de poursuivre ces choses dans la compagnie d'hommes et de femmes qui aiment le Seigneur. Et il peut le dire pour nous aussi, poursuivez ces choses ensemble. Donc cela veut dire que si un tourne un peu en arrière, on aide cette personne à rattraper les autres. Donc, ensemble, c'est un effort. Donc, cette expression « en union avec » nous donne une force que nous n'aurions pas en tant qu'individu isolé. Bon, Hébreux chapitre 10, 24, 25, peut-être c'est le passage typique ou qui explique mieux ce que je suis en train de dire. « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux aimer et à faire des œuvres bonnes. » Ne cessons pas d'assister à nos assemblées, ne soyons pas comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus y venir. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres.
Ensuite et en dernier, il y a l'amour. Vous savez comme moi que voilà un mot qu'on entend à toutes les sauces aujourd'hui. Amour ne veut rien dire, absolument rien dire pour notre société, parce que mélangé avec toute autre chose, tout un tas d'autres choses qui font qu'on ne comprend pas qu'on ne comprenne pas sa vraie signification. Dans la Bible, le verbe grec utilisé pour amour est le verbe agapao, qui signifie respecter, faire grand cas d'eux, tenir en haute estime. Donc l'amour chrétien, qui est l'agapé, est avant tout un amour de respect, de bienveillance, invincible. C'est un amour qui, selon ce qu'Armin aussi dit, qui dépend moins de nos sentiments que de notre choix. Nous choisissons d'aimer l'autre. Nous décidons d'aimer l'autre. C'est un amour qui aime parce qu'il veut aimer, même pour la seule raison qu'il décide d'aimer. L'amour de Dieu a décidé. Dieu a décidé de nous aimer. Il ne nous a pas aimés parce que nous étions tellement aimables. Au contraire, il a décidé de venir vers nous et de nous aimer. C'est ça l'agapé. Cet amour est donc pas réservé à ceux que nous trouvons sympathiques, ce qui est notre tendance, ceux avec qui nous avons certaines affinités, ou pour qui nous éprouvons de la vraie amitié. C'est une dette permanente qu'il est bon d'avoir envers tout le monde. Romains 13, 8 à 10. N'ayez de dette envers personne. Sinon, la dette de l'amour que vous vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à ce que ordonne la loi. En effet, les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne convoite pas, ceux-ci et tous les autres se résument dans ce seul commandement, aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. La loi, la raison d'être de la loi morale de Dieu, en ce qui concerne nos rapports avec les autres, c'est nous apprendre comment traiter l'autre avec amour. C'est le but de la loi morale de Dieu. La loi cherche le bien de chacun. La loi cherche qu'on rende à chacun ce qui lui est dû, selon la justice. Et c'est justement comme cela que l'amour se comporte avec le prochain. Les chrétiens, dans la mesure où ils aiment, accomplissent le dessein de Dieu comme leur maître a accompli le dessein de Dieu. L'objet de nos efforts pour développer ces vertus dont nous avons parlé, ça n'est pas d'accumuler les bons points auprès de Dieu et de faire en sorte d'être bien vu par lui, mais plutôt d'affirmer et de rendre plus solide notre attachement à Christ. Si nous ne poursuivons pas ces qualités dont nous avons parlé, bien nous aurons beaucoup de mal à parvenir au but qui nous est fixé. 2 Pierre 1, 8 à 11. Telles sont les qualités que vous devez posséder. Et si vous les avez en abondance, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme un aveugle. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de vous attacher solidement à l'appel que Dieu vous a adressé et au choix qu'il a fait de vous. Car si vous agissez de cette façon, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Certains, je dirais que je suis un peu cynique, je dirais plutôt réaliste, avec une bonne portion d'espoir. Mais j'affirme que la vie est comme un champ de mine situé entre deux hôpitaux. Il y a la première hôpital, nous naissons dans cet hôpital-là, et nous mourons dans l'autre. Et l'objet de la vie consiste à traverser le champ de mine sans nous faire sauter en mille morceaux. Bon, ça c'est assez pessimiste, n'est-ce pas? Mais il est vrai que nous vivons dans un monde déchu, et c'est peut-être ça que nous sommes en train de vous expliquer. Un monde qui dans notre chemin, est parsemé de mines et de pièges de toutes sortes. Mais, et voilà mon espoir, il est vrai également que dans le dessein de Dieu, tout, et je dis bien, j'ai tapé dans mes notes T-O-U-T au majuscule, tout nous est donné pour parvenir au but. Les mines sont là, mais il y a aussi là des choses pour nous aider à passer à travers tout cela. Mais il faut saisir cette aide qui nous est offerte. Nous y sommes pas encore arrivé à ce but, donc il faut de l'aide, n'est-ce pas? Mais ceux qui ne croient pas au règne de Dieu, qui ne croient pas que Dieu est le but de l'histoire, de leur propre vie, n'essayent même pas de l'atteindre et ne l'atteindront pas à moins de se convertir, ou à moins de changer d'avis, ou de changer de ce qu'ils pensent. Nous les croyants, et je dis ça sans orgueil, mais nous sommes quelque part au milieu du trajet. Au milieu de ce trajet, chacun avançant à son propre rythme, et Dieu merci, plus près aujourd'hui qu'on était auparavant. Nous sommes en route, si vous voulez. Mais nous terminons notre séminaire sur le dessein de Dieu avec ces deux derniers textes qui sont, à mon avis, des encouragements ou des exhortations à continuer. C'est vrai que c'est une lutte, c'est difficile, mais il y a de l'espoir. Philippiens 2, versets 12 à 13. Encore cet effort. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car Dieu agit continuellement parmi vous pour vous rendre capable de vouloir et d'accomplir ce qui est conforme à son propre plan. Et puis, le verset 6 de chapitre 1. Je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous la continuera jusqu'à ce qu'elle soit achevée au jour de Jésus-Christ. Donc, nous vous remercions de votre attention. Et peut-être, au début on avait prévu 2h30. Les deux dernières fois on s'est arrêté à 5h. Donc on va donner quand même le temps aujourd'hui pour peut-être des questions jusqu'à 5h30. Est-ce que vous avez des choses à dire ou à demander ?